Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus. Nous avons le plaisir de vous présenter le service protestant en partenariat avec l'Église protestante unie de Nîmes. Le culte qui va être diffusé sera présidé et animé par le pasteur Lionel Tambon, aumônier protestant au Centre hospitalier universitaire de Nîmes. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Chers amis, frères et sœurs, soyez toutes et tous les bienvenus pour ce moment de culte, ce moment de respiration. Pour laisser Dieu faire sa demeure en nous, il nous faut évidemment prendre du temps. Le temps de la halte pour déposer nos tumultes, nos soucis et ce qui fait l'agitation de notre quotidien. Le temps du silence pour cultiver en notre être intérieur ce lieu où recevoir une parole qui nous fait vivre. Que ce culte soit pour chacun de nous un temps de halte et de silence, un temps de prière et d'espérance, un temps où nous faisons une place pour Dieu dans notre vie afin qu'il vienne nous renouveler et nous bénir, nous apaiser et nous guérir. Amen. Et je vous propose d'entrer dans ce moment de recueillement avec un premier cantique, c'est vers toi que je me tourne. Nous nous retrouvons autour de la prière de louange. Vivre avec toi en toute simplicité, c'est ce que je désire, Seigneur. Avoir conscience de ta présence à chaque instant de mon existence. Te parler comme à un ami en toutes circonstances. Te confier mes pensées et mes actions. Vivre avec toi en toute simplicité, c'est réaliser à quel point je me complique bien souvent la vie, à m'énerver pour un rien, à m'enfermer dans mes frustrations, à prendre sur moi ce qui peut-être ne m'appartient pas. À toi qui lis dans mes pensées, toi qui connais d'avance mes réactions, pourquoi ne pas me remettre entièrement entre tes mains ? Et te laisser changer le cours de mon destin. Vivre avec toi, en toute simplicité, c'est croire, Seigneur, en toi et laisser agir ta parole en moi. Ta parole qui m'éduque à pratiquer la bénédiction, à vivre dans la reconnaissance, à puiser dans la source de joie, à prendre soin de ta création, là où je vis, dans l'ici et maintenant. Vivre avec toi en toute simplicité, c'est, Seigneur, accueillir ce que tu veux me donner dans un cœur à cœur ouvert et confiant. Amen. Et nous écoutons le cantique « Seigneur, je me confie ». Un petit texte maintenant écrit par Irène, une dame des Cévennes que j'aime beaucoup, qui a des textes très poétiques et à la fois très spirituels. Elle a écrit ce petit texte qu'elle a intitulé « Bonheur », bonheur, mais bonheur écrit en deux mots, comme si c'était aussi un bonheur à la bonne heure. Aimer aujourd'hui sans raison, caresser toutes les saisons, aimer ce jour ordinaire, humer son odeur de terre. Tout recevoir comme un cadeau, découvrir le petit moineau, le brin d'herbe, la feuille au vent, la main, le rire d'un enfant. Tâter la douceur du jour gris, le gel, la pluie tombant sans bruit. Sonder les nuages du soir, la profondeur d'une nuit noire. déplier les lourds silences, écouter leur résonance, dépasser la solitude, l'habiter en plénitude, appeler la joie, le bonheur, peindre de toutes les couleurs les petits riens de la vie, leur beauté, leur harmonie. Et après ce joli texte, je vous invite à écouter le cantique « Souffle de Dieu ». Pour notre méditation aujourd'hui, je vous propose de lire un passage de l'évangile de Luc au chapitre 18, les versets 9 à 14. Mais avant d'ouvrir les Écritures, je vous invite à la prière. Comme la surface du lac est le miroir du ciel, mon âme est le miroir de ta présence, Seigneur. Pour refléter fidèlement ton visage, mon âme doit être paisible et calme. Or, tu le sais, je suis le plus souvent troublé par mes remous intérieurs et les rafales des vents qui viennent des quatre coins de l'horizon. Les vagues et les courants me traversent et rendent parfois floue ton image en moi jusqu'à l'effacement parfois. Je te bénis, Seigneur, pour ces instants fugaces où mes yeux reconnaissent les traces lumineuses de ta présence, tels les scintillements du soleil à la surface de l'eau. Oui, je te bénis, Seigneur, de te laisser entrevoir le temps d'une prière, le temps d'une pause, le temps d'un émerveillement. Amen. Je vous lis donc ce passage de l'évangile de Luc au chapitre 18, les versets 9 à 14. Jésus dit encore la parabole que voici à certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, malfaisants, adultères, ou encore comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne deux fois par semaine, je paye la dîme de tout ce que je me procure. Le collecteur d'impôts, se tenant à distance, ne voulait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Je vous le déclare, celui-ci redescendit chez lui justifié et non l'autre, car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Nous écoutons le cantique « Ô, prends mon âme ». Utilise régulièrement, on le sait dans les évangiles, la parabole comme moyen pédagogique, on va dire, pour ouvrir notre esprit à quelque chose. À quoi veut-il donc nous ouvrir ici, dans ce passage? À première vue, la parabole paraît assez simple, assez limpide. L'introduction nous dit qu'elle est destinée à ceux qui se persuadent d'être justes et qui méprisent les autres. Et elle conclut par cette phrase : celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Celui donc qui se croit juste et au-dessus des autres se condamne lui-même, et celui qui se sait et s'avoue pécheur est regardé comme juste aux yeux de Dieu. C'est simple, c'est clair, c'est net. Il y a un bon, il y a un méchant. Nous pouvons donc inscrire la parabole au catalogue des bonnes et des mauvaises attitudes. Et pourtant, si l'on regarde de plus près les personnages du récit, on s'aperçoit que c'est sans doute un peu plus complexe que ça. Le pharisien. Prenons d'abord ce personnage-là. Le pharisien est un homme religieux. En araméen, pharisien, ça veut dire séparé. C'est donc un homme dont l'idéal religieux est d'être séparé, c'est-à-dire mis à part de par son comportement exemplaire. D'ailleurs, séparé, mis à part, en grec, ça se dit saint. Le pharisien est donc quelqu'un qui suit rigoureusement la loi religieuse de son temps. Il fait sa prière régulièrement, il donne 10% de ses revenus, il jeûne 2 fois par semaine. Bref, il est tellement conforme aux règles religieuses qu'il s'est identifié à cette loi religieuse. Est-ce du coup pour cette pratique scrupuleuse de la loi religieuse qu'il est le méchant de l'histoire ? On a un peu de mal à le croire. Il remercie Dieu de n'être ni voleur, ni malfaisant, ni adultère. Est-ce qu'on peut vraiment le lui reprocher ? En contrepoint total de la figure du pharisien, il y a cette fois celle du collecteur d'impôts. En Palestine du 1er siècle, le collecteur d'impôts était généralement un local, un juif donc, à qui le pouvoir impérial romain avait confié la responsabilité de collecter les taxes indirectes dans un port ou bien au passage d'un pont ou à l'entrée d'une ville, par exemple. Ces collecteurs d'impôts avaient bien souvent acheté leurs charges, séduits par les possibilités d'enrichissement. Ils percevaient plus d'argent que ce que le gouverneur n'en demandait, et évidemment, ils gardaient la différence pour eux comme rétribution. On comprend pourquoi alors ils étaient communément considérés comme des profiteurs et des collaborateurs par la population locale. Alors évidemment, si c'est ça notre gentil de l'histoire, si c'est lui le bon exemple de la parabole, eh bien merci. Il faut, je crois, pour entrer dans la parabole, commencer par se rappeler que ce pharisien et ce collecteur d'impôts évidemment n'existent pas. Ce sont des figures paradigmatiques qui sont là pour nous amener à nous interroger en fait sur nous-mêmes. Ce n'est donc pas aux individus de l'histoire qu'il faut s'attacher, mais à l'esprit que cette parabole nous livre. Cette petite histoire décrit en fait une manière de vivre. De quoi parle-t-elle ? Elle parle de nos relations avec Dieu et de nos relations avec les autres. Le pharisien et le collecteur d'impôts sont deux figures caricaturales qui parlent chacune un peu de nous-mêmes. Le pharisien, au fond, c'est chacun de nous lorsqu'il lui arrive d'être plein de lui-même. Ce pharisien, même quand il se prive de quelque chose, lorsqu'il jeûne, par exemple, il continue en fait de se remplir. Il se remplit de la certitude qu'il a raison de faire ce qu'il fait, et qu'il montre ainsi qu'il vaut mieux que les autres. Le collecteur d'impôts, de son côté, est la figure de celui qui n'a pas tout juste, mais qui fait de la place en lui-même. Il creuse en lui un espace qui offre la possibilité, on va dire, d'un accueil et d'une rencontre en vérité. Et c'est de ce lieu-là qu'il entre en relation avec Dieu, c'est de ce lieu-là qu'il l'appelle, afin de recevoir de lui une parole de réconciliation et de pardon qui seule est de nature à le faire vivre et à le convertir dans son rapport aux autres. C'est, au fond, cette attitude intérieure qui est reconnue comme juste. Cette attitude qui n'est pas quelque chose dont il pourrait s'enorgueillir, mais au contraire, un lâcher-prise total. C'est cette attitude, en fait, qui va lui permettre d'entrer dans une relation de sujet à sujet avec Dieu. Quand le pharisien, de son côté, reste dans une relation très convenue avec Dieu, incapable de tomber le masque de son moi social très propre sur lui, le collecteur d'impôts accepte, lui, d'aller plus loin, et sans compromis, sans faux-semblant, il s'adresse à Dieu à partir de ses failles. Le pharisien voudrait que Dieu le confirme dans l'image qu'il se fait de lui-même, plutôt une bonne image. Le collecteur d'impôts, de son côté, dépose les œillères qui l'empêchaient de regarder ses défauts en face. Il arrête de se mentir à lui-même et il regarde sa vie telle qu'elle est. À tel point qu'il se dit tout à coup qu'il n'a pas même le droit de lever les yeux vers cette instance ultime devant laquelle il a osé venir se placer dans ce temple. L'un, le pharisien, garde son masque, car son masque le fait vivre dans le paraître. L'autre, le collecteur d'impôts, tombe le masque. Il se présente nu devant Dieu. Si nous faisons le parallèle avec la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, nous voyons qu'aujourd'hui encore, des hommes et des femmes ne cessent de se dire « c'est par ce que je fais, c'est par mon identité sociale, religieuse, par mes engagements que j'existe ». Le masque que je porte, c'est-à-dire la personne que je suis dans le monde, voilà ce qui, au fond, me fait vivre. Ainsi, je me sens différente, différente des autres, peut-être même parfois au-dessus de ceux qui ne portent pas les mêmes masques sociaux, les mêmes marques de pureté que moi. Voilà ce que des hommes et des femmes affirment. Et de son côté, dans les évangiles, ce Jésus qui est pour nous le Christ nous dit « Ce qui fait de toi un être unique et différent des autres, c'est justement que tu es semblable finalement à tous les autres, c'est-à-dire traverser des mêmes doutes, traverser des mêmes interrogations, du même désir ardent d'être aimé et reconnu au-delà de ce que tu montres, au-delà des apparences. » Et il nous dit que c'est lorsque nous acceptons de baisser la garde, lorsque nous parvenons devant Dieu à lâcher prise et à laisser tomber le masque de notre identité sociale, que nous pouvons devenir vivants, ici et maintenant, sans attendre demain. Pourquoi ? Parce que la vie n'est pas donnée comme on revêt un costume de théâtre, mais elle est reçue gratuitement d'une relation vraie qui, depuis toujours, nous attend et nous espère. Le monde nous invite à vivre, c'est vrai, comme des pharisiens, c'est-à-dire comme des gens qui ne cessent de devoir faire leurs preuves, qui ne cessent d'être jugés aux apparences, et donc comme des gens qui ne cessent de chercher à se justifier par eux-mêmes. Nous n'en aurons évidemment jamais vraiment complètement fini avec cela. Mais devant Dieu, les évangiles nous disent que nous pouvons vivre sans fard, d'une parole qui voit au cœur, au-delà des apparences. Une parole qui nous dit « Repars justifié, justifié de tes doutes, justifié de tes échecs, justifié de tes peurs. » Justifié, c'est-à-dire libéré pour vivre l'ici et maintenant d'une vie apaisée sous le regard de Dieu, qui ne veut pas nous mettre à l'écart d'un monde dans lequel il est venu lui-même se mêler. Même là où nous n'avons rien, il nous donne sa grâce pour que nous la partagions, puisque ce n'est pas la nôtre, puisqu'elle ne nous appartient pas, et puisque nous en avons un besoin vital autant que les autres. Amen. Et nous écoutons le cantique « Il fait toute chose nouvelle ».
Il Toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour toi. Il fait toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour toi. Plus de cris, plus de larmes, plus de mort, plus de deuil, plus de plainte, plus de mal, toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour toi. Plus de nuit, plus d'angoisse, plus de haine, plus de guerre, plus de peur, plus de soif, toutes choses nouvelles. Toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour toi.
Nous nous retrouvons à présent dans la prière d'intercession, la prière les uns pour les autres, et nous la terminerons en disant, si vous le souhaitez, là où vous êtes, le Notre Père ensemble. Dieu notre Père, nous t'en prions, fais tomber les résistances qui nous empêchent de nous rencontrer et aide-nous à nous retrouver les uns les autres. Apprends-nous la route qui conduit aux voisins, et donne-nous la force de l'amour qui fait du plus éloigné l'être le plus proche. Enlève de nos cœurs le levain de la haine et que la grâce du pardon descende jusqu'à nous. Tu as créé ce monde de façon à ce qu'il y ait de la place pour tous. Éveille le cœur de l'homme à l'écoute de la parole. Pousse-nous sur la route vers notre prochain, que soit vaincue notre lassitude afin que nous accomplissions ta volonté, puisque tu travailles à établir la paix en nous, dans nos familles et parmi les hommes. Et pour te faire encore un peu plus de place en nous, nous te disons ensemble cette prière que Jésus le Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, recevons à présent la bénédiction de la part de Dieu dans notre cœur et dans notre vie pour toute cette journée et toute la semaine à venir. Que le Seigneur nous permette de mieux nous comprendre et de mieux nous aimer. Pour cela, il nous donne à chacun, chacune, sa confiance, sa joie et sa paix. Amen. Et pour terminer ce culte, nous écoutons le cantique Magnifique est le Seigneur. Très bonne semaine à chacun.
Si vous souhaitez participer à la vie financière de l'Église protestante unie de Nîmes, vous pouvez le faire à partir du site internet de cette église, nimes-église-protestante-unie.fr, ou bien en envoyant un chèque à Église protestante unie de Nîmes, Maison du protestantisme, 3 rue Claude Brousson, 30 000 Nîmes. Le culte qui vient d'être diffusé a été animé par le pasteur Lionel Tambon, aumônier protestant au Centre hospitalier universitaire de Nîmes. Restez à notre écoute pour la suite de nos programmes.